Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèle à notre mission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Je m'appelle Yubi Suryanto et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, samedi 19 novembre 2016. Il est 3h du matin du temps à Jakarta. Chers auditeurs et auditrices, ce soir, le programme commencera par le journaux, suivi le revue de presse, aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point. Et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel et suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission, la rubrique distraction, c'est-à-dire le magazine musical indonésienne. Je laisse la parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Chers auditeurs du titre du monde entier, voici le journaux aujourd'hui. Le personnel militaire indonésien du contingent de Garuda sous la force intérimaire des Nations Unies au Liban, au Finoul, a mené une mission de maintien de la paix au Liban depuis 2006 jusqu'à maintenant. Le chargé d'affaires de l'ambassade du Liban en Indonésie, Johan Azi, a affirmé à la Voix de l'Indonésie lors d'interview spéciale à l'ambassade libanaise à Jakarta vendredi après-midi que la présence du personnel du contingent de Garuda est bien accueillie par la population locale. Elle a ajouté que le personnel peut interagir bien avec la population locale, dont leur présence est vraiment reçue.
In securing the formation of UNIFIL troops.
En assurant la formation des troupes de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, au Finoul, l'Indonésie continue son soutien et a envoyé des soldats sur le Finoul pour servir aux chutes de Liban et pour contribuer à la paix et à la stabilité, dont leur présence est comme les frères face que les troupes Garuda TNI également ne sont pas seulement actives dans les activités de la sécurité, mais aussi à des activités sociales. Ils organisent beaucoup d'événements culturels, bien sûr comme musulmans, ils prient aussi parfois ensemble. Ils jeûnent ensemble et ils deviennent maintenant très sympathiques en plus de faire la tâche de sécurité et aussi l'activité sociale. En outre, Johan Azi a expliqué que le peuple du sud du Liban apprécie la présence du personnel de contingent de Garuda qui est en service à la frontière entre le Liban et Israël. Il a dit que le personnel de TNI a aidé le Liban à récupérer la stabilité de la sécurité nationale. La communauté internationale apprécie la politique et les mesures opérationnelles prises par l'Indonésie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya, dans le pavillon indonésien au sommet sur les changements climatiques en 2016 au COP en Marrakech, au Maroc, récemment. Elle a dit que l'appréciation de l'Indonésie livrée lors de la réunion des négociations et de l'événement parallèle organisé pendant la mise en œuvre, la 22e conférence sur les changements climatiques à Marrakech, au Maroc, du 7 au 18 novembre 2016. Le principal ordre du jour de la conférence était de discuter de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Sur la base de l'accord de Paris, chacun a transmis l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui vise à maintenir l'augmentation de la température mondiale de rester en dessous de 2 degrés par rapport à l'époque pré-industrielle. Elle a expliqué que tout au long de 2016, il y a beaucoup de politiques et de mesures opérationnelles de l'Indonésie ont l'impact direct sur la réduction des émissions, y compris la question du moratoire et la restauration de tubes du contrôle de l'incendie des forêts et des terres et la prévention de la déforestation. Toutes les mesures politiques et opérationnelles ont des indicateurs clairs, de sorte qu'elles sont mesurables et peuvent être surveillées. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance avec le ministère de l'Éducation et de la Culture organise un forum international des échanges d'apprentissage sur l'assainissement de l'école du 14 au 18 novembre 2016 à Jakarta. L'organisation de ce forum vise à augmenter la sensibilisation et l'engagement pour résoudre les problèmes d'eau, l'assainissement et le comportement de vie propre et saine aux écoles. Le directeur général de l'enseignement primaire et secondaire du ministère de l'Éducation et de la Culture, Hamid Mohamed, a déclaré que toutes les écoles devraient avoir accès à l'eau potable, des toilettes dans les écoles séparées, bien entretenues, bien et fonctionnent, ainsi que des installations de lavage des mains à l'eau courante fournie du savon. Il a déclaré que ce forum serait assisté par environ 200 participants provenant de l'intérieur et de l'extérieur du pays, tels que les Philippines, l'Inde, le Laos, le Sri Lanka, le Bangladesh et le Cambodge. Avec le forum international, la cible des objectifs de développement durable dans le domaine de l'assainissement de l'école pourrait être atteint avant 2030. La production de papier d'Indonésie est ciblée de dominer le marché mondial l'année prochaine. Pour atteindre ces objectifs, Asia Pacific Resources International Limited produira 1,1 million de tonnes de papier par an. La définition directeur Asia Pacific Resources International Limited, Wahyu Setiadi, a déclaré récemment que l'objectif l'année prochaine est de devenir le deuxième producteur après les États-Unis dans la production de papier. Selon Wahyu, il produit trois types de papier tels que Costumer Roll, Cut Size et Folio. Le marché des trois types de papier existe dans 75 pays, entre autres les pays de Moyen-Orient, le Japon, l'Australie et l'Inde. Le dernier, l'Association de l'industrie des meubles et des artisanats indonésiens a ciblé la croissance des exportations des meubles en retard, atteint 500 millions de dollars américains. La cible est possible parce que l'Indonésie est le plus grand joueur des meubles en retard au monde. Le vice-président de l'Association de l'industrie des meubles et des artisanats indonésiens, Abdul Sobur, a déclaré mardi à Jakarta que l'Indonésie possède les retards comme la richesse qui n'est pas détenue par les autres pays. Environ 85% des ressources en rotin dans le monde existent en Indonésie. Selon l'industrie du meuble en rotin en Indonésie domine le marché mondial. Chers auditeurs et auditrices du monde entier, voici le journal.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec la revue de presse. Premièrement, l'éditorial du journal Compass, le 16 novembre, a écrit « Les catastrophes peuvent être évitées ». L'Agence de la météorologie, la climatologie et de géophysique a dit « Cette année, le territoire indonésien expérience la Niña, qui se caractérise par de fortes précipitations supplémentaires ». La Niña suit habituellement le phénomène El Niño qui a eu lieu l'année dernière avec les caractéristiques d'une longue saison sèche. À la suite des changements de cette saison, le dimanche 13 novembre, 4 personnes ont été tuées dans la région de Lembang, Java West, par des glissements de terrain. La pluie a également provoqué des inondations à Bandung, Karawang et à Garut, Java West, et submergeant les zones résidentielles à la frontière de Jakarta et Tangerang. Le chef de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, Willem Rampangile, a déclaré: 80% des catastrophes sont les inondations et les glissements de terrain. Si évalué, la perte des biens matériels est équivalente 30 à 40 trillions rupiah, le plus grand à l'ASEAN. Selon Compass, les inondations et les glissements de terrain sont principalement causés par l'activité humaine. Les catastrophes peuvent être évitées si les gouvernements centraux et locaux rendent l'aménagement du territoire et la région et adhèrent sans compromis, en particulier pour l'environnement. Toutes les parties doivent également contrôler plus sérieusement la croissance de la population qui, depuis la réforme, a été presque négligée. Le développement de centres de croissance économique en dehors de Java avec une bonne planification environnementale devrait se faire plus rapidement et sérieusement. La clé de tout cela est l'engagement du gouvernement et l'exécution et du droit. Ensuite, l'éditorial du journal Média Indonésia, le 17 novembre, a écrit « Après Ahok, devenez le suspect ». Le nouveau cycle de la clarté de l'état de Cahaya Basuki Purnama ou Ahok dans le cas d'allégation de blasphème a été atteint le mercredi 16 novembre. L'agence d'enquête criminelle soit Bareskrim de la police d'Indonésie a déclenché le gouverneur non actif de Jakarta comme suspect. Bien que sans un vote unanime des 27 personnes dans l'équipe d'enquêteurs, la détermination de suspect doit être respectée par toutes les parties. Selon le journal Média Indonésia, toutes les parties doivent apprécier la police, clergé, les dirigeants communautaires, les observateurs et les fonctionnaires qui travaillent d'une manière transparente. Par conséquent, Média Indonésia espère qu'il n'y a plus de groupes ou d'individus qui interviennent en matière de droit et de la démocratie dans le cas de Ahok pour les groupes d'intérêt personnel et politique. La situation actuelle est un test pour l'application de la loi, le gouvernement et la société dans la promotion de la démocratie et de la loi. Tous les trois devraient être rejetés également les efforts de certains partis qui ont des divers intérêts, à la fois politiques et financiers. Le groupe ne va pas seulement frapper et blesser la loi démocratique, mais aussi menacer l'unité de notre nation dans le futur. Selon ce journal, ce qui est maintenant à faire est de superviser le processus de droit et démocratie dans les élections régionales en cas de Jakarta, pour avoir lieu conformément à la loi. Nous terminons la revue de presse avec l'éditorial du journal Koran Tempo, le 18 novembre, qui a écrit « La décision de la Cour suprême n'est pas un tigre édenté ». La décision de la Cour suprême à accueillir l'appel du ministère de l'Environnement et des Forêts dans une poursuite civile contre Merbau Lestari Société Anonyme est décent accueilli. Mais, afin de ne pas être intégré et denté, la décision doit être exécutée immédiatement par le ministère parce que retarder l'exécution va saper l'autorité du gouvernement et l'effet dissuasif n'est pas atteint. Si le gouvernement a un plan pour gérer, il est plus facile de passer par une procédure civile qui est habituellement en longue et fatigante. Cher ami, c'était la revue de presse.
les auditeurs et auditrices du monde entier. Écoutons maintenant l'aujourd'hui dans l'histoire, l'édition 19 novembre. On va commencer le 19 novembre 1169, l'atterrissage d'Apollo 12. Apollo 12, qui est une sixième mission du programme d'Apollo de NASA, a réussi à devenir le deuxième vaisseau spatial qui a atterri sur la Lune. Apollo 12, avec les astronautes Alan Bean et Peter Conrad, a été lancé du complexe du Centre spatial de Kennedy en Floride, aux États-Unis, le 14 novembre 1969. Atterri le 19 novembre 1969 à Oceanus Procellarum, la Lune est retournée à la Terre le 24 novembre 1969. La mission d'Apollo 12 était de surveiller la région et collecter des échantillons, déployer un certain nombre d'expériences, à développer une technique pour la capacité de point d'atterrissage, de développer la capacité de travailler dans l'environnement de la Lune et d'obtenir des photographies des sites d'exploration sur la Lune. Avec Apollo 12 est presque échoué au début de la mission en raison d'une fuite de réservoir d'hydrogène. Cependant, l'équipage a couru contre le temps pour remplacer le réservoir qui est fuite avant que la navette parte pour l'espace. On continue le 19 novembre 1969. Pelé fait le 1000 buts dans sa carrière. Edison Arant de Nascimento, mieux connu comme Pelé, né le 28 octobre 1940, a été une légende du monde de football venu du Brésil. Pendant sa carrière en tant que joueur, Pelé a réussi à amener le football brésilien et le champion mondial pour trois fois, à savoir en 1958 à Suède, en 1962 au Chili et en 1970 au Mexique. Grâce à sa réussite, le Brésil a le droit à la Coupe Jules Rimet. Pelé a le surnom et Orey ou le Roi. Le 19 novembre 1969, Pelé a fait le 1000 buts pour Santos lorsqu'il face Vasco de Gama à travers un coup de pied de pénalité. On termine la commémoration de la Journée internationale des hommes. La Journée internationale des hommes a été célébrée la première fois en Inde le 19 novembre 1999. Inaugurée en 1999 à Trinité et Tobago, la détermination de la Journée internationale des hommes internationales obtient le soutien de différents milieux en Australie, aux Caraïbes, en Amérique du Nord, en Asie, en Europe et en Afrique. Cette journée internationale vise à améliorer la qualité des relations des hommes et des femmes, encourager l'égalité des sexes et fournir des conseils sur les attitudes d'un homme frais. La journée internationale des femmes est célébrée dans plus de 60 pays. C'est ce dit auditrice du monde entier. C'était notre l'histoire d'aujourd'hui, ce soir, l'édition le 19 novembre. À demain.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la mise au point et un beau titre. L'Indonésie encourage la coopération réelle au secteur de la défense. L'Indonésie encourage la coopération réelle parmi les pays de l'ASEAN pour résoudre les problèmes de sécurité dans la région. Dans son discours à l'ouverture de la réunion des ministres de la Défense d'ASEAN à Vientiane, au Laos, le mercredi 16 novembre, le ministre indonésien de la Défense, Ria Mizar Riakudu, a mentionné deux grandes questions qui ont causé des préoccupations des pays membres de l'ASEAN à savoir le terrorisme et le conflit de la mer de Chine méridionale. Il a appelé à une coopération concrète entre les pays de l'ASEAN après la signature d'un accord régional de la sécurité. Riamizat a dit que chaque pays de l'ASEAN est libre de déterminer les alliances avec d'autres pays, mais l'unité de l'ASEAN devrait être une priorité. Selon Riamizat, la coopération des pays membres de l'ASEAN peut être renforcée encore jusqu'à ce qu'au niveau opérationnel. Il a donné l'exemple que l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines sont en train de discuter de la coopération de sécurité pour la sécurité dans la mer Sulu. La réunion ministérielle de l'ASEAN qui a eu lieu du 15 au 17 novembre a été ouverte par Lot, le ministre de la Défense du Laos, le lieutenant général Chan Somone Chanyalat. Dans son discours d'ouverture, Chanyalat a déclaré que généralement, le changement rapide et complexe se produit dans la région de l'ASEAN. Il évalue la menace du terrorisme et de l'extrémisme sont les plus vulnérables à la paix et la stabilité mondiale. Il a ajouté, d'autre part, les catastrophes naturelles et le changement climatique sont aussi les menaces réelles car elles affectent directement la vie de chacun. Il met également en évidence le problème de la mer de Chine méridionale et la péninsule coréenne. Selon Chanyalat, c'est très important pour les pays de l'ASEAN pour maintenir la stabilité et la coopération dans le but de créer une solution pacifique quand il y a des problèmes dans la région. Dans la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN, on a également tenu une réunion informelle entre le ministre de la Défense de l'ASEAN et le ministre de la Défense du Japon, Tomomi Inada. Chanyalat a accueilli ses pourparlers informels que l'engagement fort du Japon en partenariat avec l'ASEAN. Selon Chanyalat, le Japon joue un rôle important dans le renforcement des capacités et l'amélioration de la sécurité et de la région Pacifique en région. Il a dit, dans le premier tour des groupes de travail d'experts, Singapour et le Japon sont devenus présidents et vice-présidents pour le domaine de la médecine militaire. Alors que dans le deuxième tour, le Japon accompagne le Laos qui dirige les groupes de secours en cas de catastrophe. Cher ami, c'était la mise au point.
Des personnels militaires indonésiens du contingent de Garuda sous la force intérimaire des Nations Unies au Liban, au FINUL, a mené une mission de maintien de la paix au Liban depuis 2006 jusqu'à maintenant. Le chargé d'affaires de l'ambassade du Liban en Indonésie, Johan Azi, a affirmé à la Voix de l'Indonésie lors d'une interview spéciale à l'ambassade libanaise à Jakarta vendredi après-midi que la présence du personnel du contingent de Garuda est bien accueillie par la population locale. Elle a ajouté que le personnel peut interagir bien avec la population locale, dont leur présence est vraiment reçue.
In securing the formation of UNIFIL troops.
En assurant la formation des troupes de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, au FINUL, l'Indonésie continue son soutien et a envoyé des soldats sur le FINUL pour servir au sud de Liban et pour contribuer à la paix et à la stabilité. Dont leur présence est comme les frères, parce que les troupes Garuda TNI également ne sont pas seulement actives dans les activités de la sécurité, mais aussi à des activités sociales. Ils organisent beaucoup d'événements culturels, bien sûr comme musulmans, ils prient aussi parfois ensemble. Ils jeûnent ensemble et ils deviennent maintenant très sympathiques en plus de faire la tâche de sécurité et aussi l'activité sociale. Un autre journal a expliqué que le peuple du sud du Liban apprécie la présence du personnel du contingent de Garuda qui est en service à la frontière entre le Liban et Israël. Il a dit que le personnel de TNI a aidé le Liban à récupérer la stabilité de la sécurité nationale. La communauté internationale apprécie la politique et les mesures opérationnelles prises par l'Indonésie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya, dans le pavillon indonésien au sommet sur les changements climatiques en 2016 au COP en Marrakech, au Maroc, récemment. Elle a dit que l'appréciation de l'Indonésie livrée lors de la réunion des négociations et de l'événement parallèle organisé pendant la mise en œuvre, la 22e conférence sur les changements climatiques à Marrakech, au Maroc, du 7 au 18 novembre 2016. Le principal ordre du jour de la conférence était de discuter de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Sur la base de l'accord de Paris, chacun a transmis l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui vise à maintenir l'augmentation de la température mondiale de rester en dessous de 2 degrés par rapport à l'époque pré-industrielle. Elle a expliqué que tout au long de 2016, il y a beaucoup de politiques et de mesures opérationnelles de l'Indonésie ont l'impact direct sur la réduction des émissions, y compris la question du moratoire et la restauration de tubes du contrôle de l'incendie des forêts et des terres et la prévention de la déforestation. Toutes les mesures politiques et opérationnelles ont des indicateurs clairs, de sorte qu'elles sont mesurables et peuvent être surveillées. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance avec le ministère de l'Éducation et de la Culture organise un forum international des échanges d'apprentissage sur l'assainissement de l'école du 14 au 18 novembre 2016 à Jakarta. L'organisation de ce forum vise à augmenter la sensibilisation et l'engagement pour résoudre les problèmes d'eau, l'assainissement et le comportement de vie propre et saine aux écoles. Le directeur général de l'enseignement primaire et secondaire du ministère de l'Éducation et de la Culture, Hamid Mohamed, a déclaré que toutes les écoles devraient avoir accès à l'eau potable, des toilettes dans les écoles séparées, bien entretenues, bien et fonction, ainsi que des installations de lavage des mains à l'eau courante fournie du savon. Il a déclaré que ce forum serait assisté par environ 200 participants provenant de l'intérieur et de l'extérieur du pays, tels que les Philippines, l'Inde, le Laos, le Sri Lanka, le Bangladesh et le Cambodge. Avec le forum international, la cible des objectifs de développement durable dans le domaine de l'assainissement de l'école pourrait être atteint avant 2030. La production de papier d'Indonésie est ciblée de dominer le marché mondial l'année prochaine. Pour atteindre ses objectifs, Asia Pacific Resources International Limited produira 1,1 million de tonnes de papier par an. Le Phénicien directeur Asia Pacific Resources International Limited, Wahyu Setiadi, a déclaré récemment que l'objectif l'année prochaine est de devenir le deuxième producteur après les États-Unis dans la production de papier. Selon Wahyu, il produit trois types de papier tels que costumer roll, cut, size et folio. Le marché des trois types de papier existe dans 75 pays, entre autres le pays de Moyen-Orient, le Japon, l'Australie et l'Inde. Le dernier, l'Association de l'industrie des meubles et des artisanats indonésiens a ciblé la croissance des exportations des meubles en rotan atteint 500 millions de dollars américains. La cible est possible parce que l'Indonésie est le plus grand joueur de meubles en rotan au monde. Le vice-président de l'Association de l'industrie des meubles et des artisanats indonésiens, Abdul Sobur, a déclaré mardi à Jakarta que l'Indonésie possède les rotans comme la richesse qui n'est pas détenue par les autres pays. Environ 85% des ressources en rotan dans le monde existent en Indonésie, Chérant, l'industrie du meuble en rotin en Indonésie domine le marché mondial.
La voix de l'Indonésie, vive la dignité.
Ce sont toujours des infos fraîches qu'on vous propose à la voix de l'Indonésie. Parce que maintenant, le magazine culturel est suivi par l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Et aujourd'hui, nous vous invitons à visiter l'île Tinabo à Sulawesi Sud. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie. L'île Tinabo est l'une des îles dans la région des îles Selayar, Sulawesi Sud. Elle est incluse dans le groupe d'îles au district Taka Bonerate. L'île Tinabo est située au cœur de la plus grande et la plus riche vie marine de la vie de corail dans le monde, le parc national Taka Bonerate. Cette île est située à l'est de l'île Selayar, qui est en plein milieu du parc national, et le choix le plus approprié pour la plongée sous-marine ou en apnée à Sulawesi Sud. Outre de sa position stratégique, l'île Tinabo, avec une longueur de 1,5 km et une largeur de 500 mètres, est une île relativement petite. Toute l'île est entourée de plages de sable blanc. Non loin de cette île, il y a quelques îles voisines qui ne sont pas habitées par les humains, qui servent également comme protecteurs de l'île Tinabo des vagues. Pour ceux qui aiment faire de la plongée, cette région offre de nombreux types possibles de plongée. Il y a beaucoup de murs ou des ravins appropriés pour le mur plongé contour, en pente zone de rampe pour les îles sous l'eau. En outre, dans certains domaines, vous pouvez sentir le flux approprié pour la dérive plongée ou la zone qu'il n'y a absolument aucun courant. Pour ceux d'entre vous qui aiment prendre des photos sous l'eau, les spots de plongée autour de l'île Tinabo et la région Taka Bonerate donne un défi parce qu'il y a la variété des objets de photo. La visibilité sous l'eau peut atteindre au moins 10 mètres. En outre, ce n'est pas trop difficile de trouver du poisson grenouille, nudibranche, branche, poisson crocodile ou grands animaux comme des tortues, des requins et des poulpes sur chaque plongée. Vous pouvez également trouver les récifs de corail de différents types. La beauté sous-marine n'est pas seulement pour les plongeurs, car il y a beaucoup qui veulent être vus à une profondeur de 0 à 5 mètres. Les eaux claires et beaucoup de petits poissons colorés et la diversité des récifs coralliens deviennent son propre paradis pour les plongeurs. Pour atteindre l'île Tinabo, vous devez aller vers la ville Makassar avant Selayar. Si vous prenez l'avion après l'atterrissage à l'aéroport international Sultan Hasanuddin à Makassar, vous pouvez continuer le voyage à l'île Selayar. Pour se rendre à l'île Selayar, vous pouvez choisir par la route ou par avion. Si vous préférez l'avion, vous devez d'abord vérifier les horaires de vol pour voir si vous avez besoin de passer la nuit à la ville Makassar ou non. En outre, il y a aussi le service Air Charter de vol Makassar-Selayar aller-retour deux fois par semaine. Le vol à Selayar est environ 40 à 50 minutes. Pour ceux qui choisissent un voyage sur la route, vous pouvez louer une voiture de Makassar à Tanjung Bira, la dernière petite ville sur la pointe sud de l'île Sulawesi. De Tanjung Bira, vous allez directement au port de ferry pour acheter un billet pour Selayar. Après avoir arrivé sur l'île Selayar, pour se rendre à la ville Benteng, la capitale des îles Selayar, on a besoin d'environ une heure. Bien que le voyage sur la route soit très consommatrice de temps, mais de nombreux plongeurs choisissent la route parce qu'ils veulent maximiser leur temps de plongée sur l'île Tinabo. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. À demain! Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers auditeurs, bonsoir, voici l'Indonésie en couleur et un petit titre létal électronique. Chers auditeurs, récemment, la ministre indonésienne des Affaires sociales, Kofifa Indar Parawansa, a lancé Warung électronique ou un étal électronique et Warung au village Tanjung Sekar, Lowo Waru, Malang, en province de l'Est de Java, pour les bénéficiaires de l'aide du programme La Famille d'Espoir. Cet état sert à contrôler l'utilisation de l'aide du gouvernement pour la bonne cible. Avec E-Warung ou ESOP, les bénéficiaires et de l'aide pourraient dépenser l'argent pour les besoins de base et n'est pas pour d'autres besoins inutiles pour que l'aide gouvernementale puisse être ciblée précisément. Ces auditeurs, l'état électronique est un lieu de bénéficiaires de l'aide gouvernementale de dépenses sont argent de l'aide gouvernementale pour les besoins de vie. Le bénéficiaire d'aide du programme La Famille d'Espoir est tenu d'avoir un compte bancaire. À travers ce compte bancaire, diverses aides gouvernementales seront distribuées. La distribution de l'aide du gouvernement à travers ce compte personnel vise également à empêcher l'assistance de découpage de l'aide par certains éléments, de sorte que l'aide est plus ciblée. L'aide électronique vend 4 types de matières premières, à savoir l'huile, le riz, la farine, le sucre et les produits des groupes d'affaires communes. La transaction dans l'aide électronique utilise la carte Visa. Et là-bas, la question de cet état sera en synergie avec Kobe. Les auditeurs, actuellement, le gouvernement indonésien prépare l'état électronique à 34 ans et vit jusqu'au septembre 2016. En 2007, l'état électronique peut toucher 100 résidences et villes en Indonésie. Cette année, à l'échelle nationale, le gouvernement a versé le fonds du programme de la famille d'espoir de 9,8 trillions rupiah et l'aide associée du riz pour la famille prospère de 21,9 trillions rupiah. Le montant potentiel de finances liées à l'aide associée rend la banque BNI d'être intéressée à exploiter le marché de la classe inférieure, si bien que les gens peuvent faire la transaction dans l'État en utilisant la carte de la banque BNI. Ces auditeurs du titre, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, mes mères, mes fréquences. À bientôt et au revoir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Passons maintenant du versement avec le magazine musical indonésien qui va vous plaire.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, la voix de l'Indonésie dans le monde entier. Voici le magazine de musique pour l'édition samedi. Avec moi, Yubi Surianto, qui va vous accompagner pendant 15 minutes. Vous pouvez écouter nos émissions par l'onde courte 900-200 kHz ou sur internet à l'adresse www.voi.co.id. Et nous vous invitons également à rejoindre la VOI sur Facebook, Voice of Indonesia, ou à nous suivre sur Twitter, @VoiIndonesia. Comme d'habitude, afin de terminer cette émission, nous allons vous présenter maintenant un groupe vocal de femmes s'appelle Gach. Gach est l'abréviation du membre de groupe Gamaliel Tapiheru, Audrey Tapiheru et Chantika Abigail. On écoute ses premières chansons intitulées Ingin Putus Saja, ou en français Je voulais juste rupture. Bonne écoute.
Dan terulang lagi, kau sakiti aku yang tak percaya. Dan akhirnya kini hatiku tak ada sedikit pun rasa. Sekali sering kita putus cuma sehari. Berkali kau janji mau berubah malah semakin
toujours à l'écoute de la voix d'Indonésie diffusée à Jakarta. C'était une chanson du groupe vocal indonésien Gach ou G-A-C intitulée Je voulais juste rupture. Cette chanson raconte quelqu'un qui voulait rupture de son couple car elle était blessée toujours. Cette chanson a marqué le début de Gach dans l'industrie de la musique indonésienne. La formation du groupe a été précédée par deux familles, Gamal et Audrey, qui a téléchargé son vidéoclip à YouTube. Un an après, Chantika, qui aime aussi de faire vidéoclip à YouTube, était intéressée de leur vidéo duo. Et enfin, Chantika a rejoint ce groupe. Après avoir rejoint, G.A.T. a produit un vidéo musique cover, Just Dance, popularisé par Lady Gaga. De façon attendue, ils ont gagné l'attention du grand label pour produire un album, premier album intitulé Gamaliel Audrey Chantika en 2012 et Stranger en 2015. On écoute l'une des chansons de l'album Stronger intitulé Heureux. Bonne écoute.
Hey, hey, bagaimana kawan? Apakah tak merangkai semua cintamu? Bebaskan harapanmu. Hey, hey, bagaimana kawan? Apakah tak menapaki babak baru? Panjangkan semangatmu.
Percayalah kau.
Vous êtes toujours à l'écoute de la voix d'Indonésie de Fouché Jakarta. C'était une chanson du groupe vocal indonésien Gratch, intitulée Heureux. Cette chanson est une demande pour reconnaissance pour tout ce qui arrive dans cette vie. Non seulement cela, Gratch a aussi transmettre la message que nous sommes plus disposés à essayer de nouvelles choses et faire des choses avec un cœur heureux. Le single lui-même est le résultat de leur travail dur quand ils ont participé dans l'atelier de musique en Suède en mars 2014. Pendant 3 semaines, Gatch a collaboré avec des musiciens suédois et anglais. En septembre 2016, Gatch a publié la chanson « Never Leave You » sur une relation longue distance. Bien que « Nuance de l'amour » ait une relation longue distance, Gatch a créé sa musique sur la chanson Never Leave You avec un tempo rapide. Actuellement, la présence de Gatch dans le monde de la musique indonésienne a porté une brise fraîche. Avec bonne harmonisation, la musique R&B d'aujourd'hui, avec l'insertion de rap de Gamal et la mélange des paroles en anglais et indonésien, est une combinaison très intéressante. Chers amis, avant nous terminons notre programme musical ce soir, on écoute Never Leave You et Cinta ou Amour. Bonne écoute et au revoir.
Memang kau tadi sisiku, memang kau jauh dariku. Namun sama kau di hatiku, nantikan selalu kehadiranmu. I believe that we can work it out. 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 Berbaring di dalam kamar tidurku, menantikan selalu kabar darimu. Melihat fotomu, yes it helps a little. Tak berarti ku tak rindu kau keliru.
Never gonna leave ya, never leave, I'm never gonna sampai samamu. Janganlah kau ragu, kau ada di hatiku.
Aku ini milikmu.
La voix de l'Indonésie, vive la dignité.
Mes amis, il y en a des différentes tous les jours. Alors, n'oubliez pas de nous rester fidèles donnez-nous des suggestions ou envoyez-nous de vos nouvelles, vous qui nous écoutez des quatre coins du monde. C'est la fin de notre émission en français de la Voix de l'Indonésie. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésie, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.